tous réclamaient dédommagement et reconstruction. Un ultimatum fut lancé par la commune de Pérouse à celle d'Assise, qui le rejeta avec hauteur, et les hostilités commencèrent. Ce ne furent d'abord, mais pendant 2 ans, que des escarmouches de part et d'autre, jusqu'au jour où, le 12 décembre 1202, se livra la bataille décisive. À Assise, toutes les cloches de la ville se mirent en branle et l'armée se rassembla devant la cathédrale. Ouvrait la marche la piétaille derrière les bannières des différents quartiers, celle de San Rufino, de Sainte-Marie-Majeure, de San Lorenzo. Puis venait la cavalerie entourant le Carroccio, grand char traîné par des bœufs blancs et portant un autel de cierges allumés autour d'une croix étincelante et des reliques. Des prêtres y célébraient sans interruption la messe sous le gonfanon rouge et azur de la commune, et les trompettes sonnaient bravement. Parmi les cavaliers se trouvait bien entendu notre héros, fastueusement équipé par son père, qui tenait à le voir parmi les seigneurs. Après l'excitation de la descente vers la plaine, l'armée mit plus de 2 heures pour atteindre les bords du Tibre, à la frontière des deux communes, et se mit en position sur le coteau de Collestrada, près de l'hôpital des lépreux. Le long chemin parcouru avait quelque peu émoussé ses forces, si ce n'est son ardeur, alors que ceux de Pérouse n'avaient eu qu'à passer le fleuve à Ponte San Giovanni pour se ruer sur l'adversaire. Aucune description précise ne nous est parvenue de cet engagement qui tourna vite au massacre. On sait pourtant que les seigneurs exilés se montrèrent d'une férocité sans égale envers les manants qui les avaient spoliés. L'armée assisiate se débanda devant l'ennemi qui la poursuivit dans la vallée et dans les bois, au-dessus de Collestrada, jusqu'à la chute du jour, et la tailla en pièces. On s'acharna sur les fuyards. Soldats et archers furent égorgés, mais les cavaliers faits prisonniers. Posséder un cheval supposait en effet, affaire non négligeable, qu'on pouvait payer rançon. D'après les récits du temps, le fleuve débordait de sang. Exagération à la Lucain peut-être, mais il y avait des monceaux de cadavres dans l'eau. Par un de ces raccourcis que ménage le sort, la bataille se déroula sur un terrain que le père de François avait acquis, et il est plus que probable que le jeune homme tua du monde. Ce fut de nuit qu'il prit avec ses compagnons d'infortune le chemin des geôles de Pérouse. Les Pérugins ne poussèrent pas leur avantage en s'emparant de la cité ennemie, car les murailles élevées par sa rivale rendaient sa prise hasardeuse. D'Assise, ne voyant revenir que quelques-uns de ses fils, monta dans le soir jusqu'au ciel une plainte dont le souvenir ne s'est jamais perdu. Prison. Prisonnier avec beaucoup d'autres, tous seigneurs, sauf lui. On l'avait pris pour un noble puisqu'il était à cheval et qu'il avait de grandes façons. Noble ou non, sous les huées de la foule, ils furent chargés de chaînes puis poussés dans un cachot souterrain. Là, ils purent se reconnaître dans le lugubre éclairage d'une lanterne.
Au fer, ces aristocrates d'Assise!
La vie a de ces ironies qui vous glacent. Il voulait être parmi les seigneurs, il l'était. Et pour combien de temps? Dans les ténèbres du soir, des échos du dehors parvenaient jusqu'à eux, faibles sans doute, mais cruels parce qu'ils évoquaient du bonheur perdu. Connu pour sa folie du plaisir, la jeunesse s'agitait et criait dans les rues de la cité victorieuse. Se souciait-elle un instant des garçons de son âge qui se rongeaient de désespoir dans les soubassements de la tour étrusque? Se promener aujourd'hui dans cette Pérouse qui a conservé tant de vestiges de sa magnificence permettrait bien d'imaginer telle qu'elle fut, alors, la Pérouse romane. De l'immense place cernée par la cathédrale, la maison de la commune et des palais couleur d'ocre, une large